Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Merci Ridan, merci citoyen de France, nous aussi on est citoyen de France. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Les invités, vous êtes là ou pas?
Oui, on est là.
Oui, on a deux invités, bon on a une et un invité, une on ne sait pas trop, peut-être qu'elle prendra la parole, on verra. En tout cas merci à vous d'être là, donc pour l'instant on est quatre, on a un autre invité qui arrivera tout à l'heure en cours d'émission. Donc aujourd'hui, bonjour à tous et à toutes, évidemment, et aux autres. Donc exceptionnellement on prend deux heures parce qu'on a un sujet qui nous tenait à cœur et donc il va nous falloir un peu de temps pour le développer. Peut-être qu'on pourrait commencer d'abord par dire qu'on va aujourd'hui parler du TAFTA. Qu'est-ce que c'est que le TAFTA? Eh bien, c'est un traité transatlantique.
Free Trade Agreement.
Ok, voilà, on a du mal avec l'anglais. C'est pas grave, on va y arriver. Sinon, il y a un autre nom en tout cas que le TAFTA.
On
c'est
va le faire en français. Ouais.
TTIP, c'est le Transatlantic Trade and Investment Partnership. Donc, je sais pas en français comment tu dirais ça, toi.
Bah, le traité transatlantique, tout simplement.
Ouais, bah, allez. Bon, en gros, c'est un traité commercial qui a pour ambition de créer un marché commun entre les États-Unis et l'UE. Et donc, pour ce faire, eh bien, il y a tout un tas de clauses, évidemment, dont on va parler, qui sont pas forcément très rassurantes pour nous. Voilà, donc ça, on en parlera vraiment concrètement dans la deuxième partie de l'émission, donc de 15h à 16h. Et étant donné, finalement, que ce traité, on va dire que pour nous, en tout cas, et pour d'autres, hein, c'est un peu une façon d'élargir le droit américain à l'Union européenne, ou en tout cas de niveler les normes européennes aux normes américaines, justement pour créer ce marché commun. On s'est dit qu'on allait parler des États-Unis et de ce que certains appellent l'américanisation du monde. On peut parler de mondialisation. Nous, on a choisi de parler d'américanisation du monde. Donc voilà. Je vais commencer pour ce faire par vous lire un petit extrait de la quatrième de couverture d'un livre qui nous a beaucoup aidé justement pour aborder ce sujet du traité transatlantique. Il s'agit du livre qui s'appelle Le Grand Marché Transatlantique, la menace sur les peuples d'Europe, qui est un livre de Raoul Marc Génard, paru aux éditions Cap Béart en mars 2014. La citation est la suivante. Quelque chose doit remplacer les gouvernements et le pouvoir privé me semble l'entité adéquate pour le faire. Ces mots confiés par David Rockefeller au magazine américain Newsweek, le 1er février 1999, fournissent la clé pour comprendre ce qui se passe depuis une trentaine d'années et qu'on appelle mondialisation néolibérale. Déléguer au secteur privé la maîtrise des choix ou pour l'exprimer à la manière publique de journaux comme Le Monde ou Les Échos, redéfinir le périmètre de l'État, c'est l'objectif du patronat et des milieux financiers. Voilà, je pense que les bases sont jetées. J'aimerais juste prendre quelques instants pour vous rappeler qui est David Rockefeller. David Rockefeller est le descendant de John Davison Rockefeller, un homme qui a vécu de 1839 à 1937 et qui fut un industriel américain, l'un des premiers à avoir pressenti l'avenir du pétrole. Il fonda en 1870 la Standard Oil Company et acquit l'une des plus grosses fortunes du monde. On parle aussi de lui parce qu'il fut connu pour sa dureté dans les affaires et son apparente absence de sens moral dans les affaires, justement. Il légua donc à sa descendance un colossal empire économique. Je me trompe pas jusque-là ?
C'est bon, c'est bon.
Bon, parce que nos invités, il faut le dire, on va peut-être prendre le temps de les présenter quand même avant d'aller un peu plus loin. Franck, toi, tu fais des études à la fac du Mirail ?
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Alors en fait, nous deux, on est en économie-sociologie.
Ouais.
Et on fait partie d'une petite association qui s'appelle Les Échos Solidaires. Donc on avait organisé une conférence sur le traité transatlantique, c'était en novembre, c'est ça ?
Ouais.
Novembre, il me semble, fin novembre. Et donc voilà, on essaie de faire des petits projets comme ça, un peu solidaires. Là, c'était vraiment informationnel. Mais sinon, on fait dans la distribution de légumes locaux, avec des petits producteurs locaux, etc. On essaie d'organiser des petits projets comme ça, durables.
Okay.
C'est un peu l'antithèse vraiment du traité transatlantique, justement.
Très bien.
Favoriser le local et...
Ok.
Et voilà.
Merci beaucoup. Du coup, aujourd'hui, vous serez notre caution économique. Ouais. D'habitude, je suis la caution historique de Daniel. Là, c'est bon, on a caution, c'est bon. Donc pourquoi commencer par cette citation ? Remplacer les gouvernements par le pouvoir privé. Eh bien, parce qu'il semble important de comprendre cette notion justement de pouvoir privé, qui est centrale dans la question du TAFTA. Alors, compris comme le pouvoir du secteur privé, ou des corporations, des sociétés anonymes, ou plus communément appelées entreprises, cette notion est propre à l'idéologie marchande américaine, l'idéologie libérale dans son ensemble, héritée justement des États-Unis. Bon, pas seulement, c'est justement un point de débat qu'on a abordé un peu avant l'émission, mais en tout cas, c'est propre à l'idéologie marchande, il me semble. Bon, au XVIIIe siècle, on sait qu'il y a une révolution de la pensée, il y a ce qu'on appelle le phénomène des Lumières. Ces Lumières souhaitent justement voir apparaître un homme nouveau, libre avant tout de toute structure collective régulatrice, comme ont pu l'être justement l'État, ou encore les institutions religieuses, l'Église notamment, trop souvent pour eux synonyme d'oppression, voire de répression meurtrière. On pense par exemple aux guerres de religion qui ont déchiré la France entre 1562, date de la Saint-Barthélemy, et 1598, où justement Henri IV, le bon Henri IV, a mis fin à tout ça avec l'édit de Nantes. Mais ces guerres de religion, elles ont aussi ensanglanté l'Europe entre 1618 et 1648. Et donc c'est quelque chose qui a vraiment marqué les esprits à cette époque-là. Et ce sont des événements qui ont beaucoup nourri la réflexion philosophique et politique de cette période qu'on appelle aussi l'époque moderne jusqu'à la Révolution française. Voilà, donc il fallait trouver un moyen justement d'éviter ça. Un nouveau culte donc semble devoir apparaître. Et ce culte doit se focaliser sur autre chose que sur un dieu transcendant, sur un dieu qui pourrait être moralisant et qui pourrait donc limiter la liberté individuelle. Eh bien, ce nouveau culte semble se baser sur l'argent. En tout cas, c'est ce que nous dit Jean-Claude Michéa, un auteur français, philosophe, qui dit que face à l'argent, tous les hommes sont de même religion. Donc comme ça, au moins, on évite les problèmes. Vous pouvez d'ailleurs trouver Michéa sur Internet.
Il y a de super
vidéos. Il y a son bouquin, moi, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, qui est un peu hermétique, mais qui est quand même super intéressant, qui s'appelle La double pensée, où justement, il essaie, cette fois-ci, de déconstruire le libéralisme économique et culturel, et c'est vraiment, vraiment très intéressant. Donc concrètement, la question qui se pose sur un plan de philosophie politique, et c'est là que les choses se corsent, c'est la question suivante. L'État doit-il assurer la régulation des relations entre les individus ou ces relations peuvent-elles s'autoréguler d'elles-mêmes, notamment grâce à l'économie de marché et l'usage procédurier du droit ? On sait que la culture politique anglo-saxonne penche pour la deuxième hypothèse. Elle brandit d'ailleurs comme avatar de sa doctrine la dorénavant célèbre formule de Adam Smith, la main invisible. Et donc je parle d'Adam Smith, mais il y a également des penseurs comme John Locke ou encore John Stuart Mill qui sont, il me semble, allés dans ce sens. Je ne les ai pas tous lus, mais je le ferai. C'est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on appelle le libéralisme. En toile de fond, il est ici question donc de comprendre comment vivre ensemble en démocratie libérale à l'heure actuelle. État, État-nation ou non ? Comme le disait Hannah Arendt dans un entretien accordé à Bernard Pivot pour Arte, il y a longtemps maintenant, dans la série Un certain regard, l'Amérique n'est pas un État-nation et les Européens ont beaucoup de mal à comprendre ce simple fait qu'ils devraient pourtant théoriquement connaître. À l'origine, rien n'associe les citoyens américains les uns aux autres, ni leur histoire, ni leur langue, ni leur religion. On devient citoyen américain par simple acceptation de la Constitution. Hannah Arendt continue « Dans ce système politique, c'est la loi qui gouverne et non pas les hommes. » On peut très bien se dire que c'est une bonne chose d'ailleurs que ce ne soit pas les hommes qui gouvernent comme ça a pu l'être pendant de nombreux siècles. On pense au régime tyrannique d'ailleurs où le monarque ou le chef en tout cas était la source du droit. Évidemment que ça peut paraître quelque chose de très positif et de très progressif. Dans La psychologie des foules, cette fois-ci, un autre ouvrage qui nous a aidé à réaliser cette émission, à la préparer en tout cas, eh bien, Gustave Le Bon, donc, qui en est l'auteur, insiste lui sur cette différence culturelle entre la civilisation latine et la civilisation anglo-saxonne. Je vous lis un passage donc de ce livre « La psychologie des foules ». Chez les latins, le mot « démocratie » signifie surtout « effacement de la volonté et de l'initiative de l'individu devant celle de la communauté représentée par l'État ». C'est l'État qui est chargé de plus en plus de diriger tout, de centraliser, de monopoliser et de fabriquer tout. C'est à lui que tous les partis sans exception, radicaux, socialistes ou monarchistes, font constamment appel. Chez l'anglo-saxon, celui d'Amérique notamment, le même mot « démocratie » signifie au contraire « développement intense de la volonté et de l'individu, effacement aussi complet que possible de l'État, auquel, en dehors de la police, de l'armée et des relations diplomatiques, on ne laisse rien diriger, pas même l'instruction ». Donc, le même mot qui signifie chez un peuple effacement de la volonté et de l'initiative individuelle et prépondérance de l'État, signifie chez un autre développement excessif de cette volonté, de cette initiative et effacement complet de l'État, c'est-à-dire possède un sens absolument contraire. Je pense que les choses sont claires, même si on prétendra pas que Gustave Le Bon dit absolument la vérité et qu'il y a une vérité absolue. Je pense qu'en tout cas, ça confirme tout à fait notre propos. Et je me propose de lire un autre petit passage qui est toujours dans ce bouquin « La psychologie des foules » et qui est le suivant. « Une foule latine, si révolutionnaire ou conservatrice qu'on la suppose, fera invariablement appel pour réaliser ses exigences à l'intervention de l'État. » Elle est toujours centralisatrice et plus ou moins césarienne. Une foule anglaise ou américaine, au contraire, ne connaît pas l'État et ne fait appel qu'à l'initiative privée. Une foule française tient avant tout à l'égalité. Une foule anglaise à la liberté. Ce sont précisément ces différences de race qui font qu'il y a presque autant de formes de socialisme et de démocratie que de nation. Bon, là, il y a un petit mot qui m'a un petit peu écorché la langue, c'est le mot race. Mais bon, ça, c'est autre chose. Hein. C'est des auteurs qui ne sont pas tout à fait contemporains, qui avaient d'autres présupposés.
Et il écrit ça au 19e siècle, hein, il faut le rappeler. C'est donc vrai. C'est totalement actuel en plus.
Tout
c'est encore très ancré dans les esprits, quoi, ouais, comme ouais. Mode de pensée.
Ce bouquin, La psychologie des foules, il est savoureux. Hein. C'est, bon,
il
c'est
est très intéressant.
Pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui, mais il m'a beaucoup plu. Cette question donc de culture et de politique au sens large, entendue comme organisation de la société et des rapports entre les individus et entre les individus et l'État, est donc centrale dans notre propos d'aujourd'hui, dans la mesure où le TAFTA est à tout point de vue un traité visant à favoriser le secteur privé, notamment les entreprises multinationales, au détriment de l'État et de ses fonctions régaliennes telles que la protection des individus sur le plan sanitaire et social, la protection de l'environnement ou encore les pouvoirs judiciaires et législatifs. C'est ce que nous verrons dans la seconde partie de l'émission, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de 15h à 16h. Voilà, donc après avoir vu rapidement les différences théoriques entre civilisation latine et anglo-saxonne sur le plan de la philosophie politique, nous allons tâcher de montrer en quoi les États-Unis, chantres de la doctrine libérale et néolibérale, mènent une véritable guerre économique au monde, aujourd'hui et à l'Europe. Je pense que on peut peut-être s'offrir une pause musicale. Qu'est-ce que tu en penses, Daniel?
Je crois, oui, parce que on est parti sur un terrain vraiment ardu. Alors, il faut peut-être un petit peu relaxer nos neurones, non?
Les invités sont d'accord?
Oui.
Bon, alors, qu'est-ce que je mets? Je vais mettre peut-être Bruce Springsteen, désolé, Born in USA, comme ça au moins le décor est planté.
Voilà.
Allez, super, on se retrouve dans 5 minutes, je pense, à tout de suite. Cette fois-ci, Merci Bruce. Born in USA. Alors nous, on n'est pas born in USA, mais comme on disait, on est presque américain. Hein.
On est très ouais. Américanisé.
Ouais, ça, on est d'accord. Donc cette histoire de guerre économique, donc, et je pense que là aussi le TAFTA ben, prend tout son sens. Je voulais revenir un peu sur cette notion de guerre économique, en commençant par parler du système consumériste. Alors je crois qu'en France on ne dit pas consumériste, parce que consumériste aux États-Unis en tout cas c'est la notion selon laquelle eh bien, on défend les intérêts des consommateurs. Moi, ce que j'appelle consumériste, eh bien, c'est le fait d'être consommateur et d'orienter son existence dans
la société de consommation.
Voilà, la société de consommation, tout simplement. Il me semble que c'est un modèle hérité, encore une fois, du monde anglo-saxon, pas forcément que états-unien, mais anglais aussi, en tout cas anglo-saxon, avec un économiste qui s'appelle Keynes, et John Maynard Keynes, et en fait il semble que ce modèle économique donc s'appuie sur le triptyque suivant: emploi, salaire, consommation. Le salaire qui procure un pouvoir d'achat et qui permet la consommation. La roue semble tourner de cette manière-là, et donc ce modèle de société fait de l'individu un consommateur, peut-être même avant d'en faire un citoyen. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'une des conséquences, d'une des premières limites auxquelles s'est confronté le capitalisme productiviste du 19e siècle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait un surplus de production, il y avait trop de matière,
on
avait
trop
de marchandises. Merci.
Et pas assez d'acheteurs.
Donc on a commencé à essayer de trouver tout un tas de stratégies qui pourraient permettre justement de l'avènement de ce modèle, de ce capitalisme consumériste.
Étendre les marchés en fait pour pouvoir... Oui. Pouvoir liquider les surplus de production, étendre les marchés le plus possible dans d'autres pays, etc., ouais. Exporter via l'exportation notamment.
Et même la politique fordiste vis-à-vis des salariés, justement, de leur permettre d'acheter des voitures Ford, justement.
Qu'eux-mêmes ont produit.
Voilà, c'est le summum de l'aliénation, peut-être. Bon. En tout cas, c'est ce modèle-là qui est directement hérité de l'autre continent. Et il y a aussi bon, un personnage dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais on pourrait y consacrer une émission. Peut-être qu'on le fera, Franck. C'est Edouard Bernays. Qui justement avec
pas de problème. Le neveu de Freud donc
voilà qui a développé donc toutes les ce qu'on appelle le marketing aujourd'hui, qui au départ est peut-être un marketing politique qui est devenu très vite un marketing économique, puisque je crois qu'il a aidé le Tobacco Corporation, American ouais, Tobacco Corporation, ça. À pouvoir écouler ses cigarettes, parce que le patron de cette boîte là avait un problème, c'est que les femmes ne fumaient pas, c'était tabou culturellement, blablabla.
Du coup il a tout bouleversé les mentalités pour pouvoir faire fumer les femmes et définir ça comme un projet émancipateur même, et ça a vachement bien marché, et toutes les techniques sont à la base hein. La contestation, ouais. Émancipation, ce sont les arguments parfaits qui permettent de vouloir acheter en fait un produit.
Tout à fait.
On est différent, on est
libre,
on est
de s'intoxiquer, c'est
voilà.
Génial. Enfin voilà, donc je pense qu'on pourrait en faire une émission, il y a tellement de choses à dire sur cet homme-là,
ouais.
Qui évidemment a utilisé les théories de son oncle donc pour pouvoir manipuler l'inconscient, entre autres. Bon, on y reviendra, je pense. Donc de cette logique marchande découle, à titre d'exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui l'obsolescence programmée. Bon, il me semble en tout cas que ça en découle. Puisque précisément il faut que la machine consumériste tourne, et donc si on fabrique des objets trop durables, eh bien les consommateurs n'ont plus de raison d'acheter de nouveau et indéfiniment. L'obsolescence programmée, donc, c'est une stratégie commerciale qui vise à rendre de manière préméditée tout bien obsolète et donc inutilisable dans un délai court, afin donc de voir le consommateur se diriger à nouveau vers les magasins. On imagine les conséquences d'une telle stratégie commerciale sur, dans un premier temps, la valeur accordée aux objets de consommation. Il y a quelque chose qui me frappe moi aussi de nos jours. Je travaille dans un lycée, donc je vois un peu les générations. Alors soit d'un côté, il y a un fétichisme exacerbé sur certains, par exemple iPhone ou d'autres trucs de ce type-là. Et il faut absolument, s'il le casse, bon, c'est il pleure, etc. Mais aussi il y a quelque part un côté désinvolte des fois de certaines choses. On s'en fout, on en achètera d'autres. Enfin, je trouve que déjà cette histoire de consommation, dans un sens, fait perdre la notion de valeur, il me semble, à certains objets. Et puis surtout, on imagine l'impact sur l'environnement avec la création de déchets qu'une logique comme ça est bien produit. Bon, pour lutter contre l'obsolescence programmée, heureusement, on a les Amis de la Terre, qui est une association, et qui, il y a peu, a demandé l'adoption de 3 mesures à la Commission européenne. Je ne me trompe pas, Daniel, tu me trompes, tu m'arrêtes si je me trompe. Il me semble que c'est à la Commission européenne.
À la Commission européenne, le texte a été voté. Alors, ce texte a été voté. Donc, la condamnation de la préparation de l'obsolescence programmée, ça a été voté.
D'accord.
Avec aussi la possibilité, l'obligation de prévoir la garantie pendant 10 ans.
Oui.
Et de mettre à disposition des pièces de rechange pour réparation.
Tout à fait.
Alors, bon, on est très content.
Oui.
Mais le problème, c'est comment est-ce qu'on va prouver l'obsolescence programmée?
Et ça, c'est un point...
c'est vrai.
C'est un point vraiment qui fait polémique, en plus.
Ben oui. Parce comment que est-ce qu'on peut attaquer?
Ça veut dire qu'il y a une lignée d'ingénieurs, etc., qui ont bien anticipé ça et qui ont bien créé vraiment l'obsolescence. Oui, et c'est très dur à prouver, même au sein des entreprises, c'est très compliqué.
Bien sûr.
Et donc cette loi, ça a été votée ce 3 mars, là, ça?
Oui, ce 3 mars.
Ce mardi.
Mais ça va être des mots, ça.
Ouais, on va voir ce que ça donne. Hein. Bon.
Après toute loi, il faut des décrets d'application.
Voilà.
Mais ils sont pas au bout de leur peine. Hein.
Surtout avec le DAFTA. Parce qu'il y a...
On va en parler.
Il y a une entreprise dont on taira le nom, mais qui a le profil d'une pomme. Hein, comme ça, je pense que tout le monde aura compris. Il me semble que justement, elle est très... on a souvent l'impression que le matériel qu'elle vend est indémontable, justement, qu'on ne peut pas avoir accès à l'intérieur du système pour le réparer. Enfin bref, cette marque-là... Ouais, avec son ordinateur, téléphone, enfin à chaque fois.
En tout cas, pour changer les petites pièces, ouais, c'est
pas possible.
C'est une stratégie, il y en a beaucoup qui l'utilisent.
Ouais, j'imagine. Voilà. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, messieurs, dames, et les autres, eh bien, vous pouvez trouver facilement sur Internet un documentaire qui s'appelle Le prêt à jeter. Donc, comme le prêt à porter, mais le prêt à jeter. C'est vraiment un documentaire, moi, que j'ai vu qui m'a beaucoup plu et qui parle très clairement de cette problématique. Donc voilà pour l'obsolescence programmée. Et donc ce modèle économique, donc basé sur la consommation des ménages, a probablement entraîné ce qu'on appelle aujourd'hui The American Way of Life. Voilà, on disait qu'on était peut-être un peu américains nous aussi, je pense que c'est le cas. Et il me semble aussi qu'au vu des générations précédentes, donc que ce soit nos parents ou nos grands-parents, on voit un peu cette évolution qui est assez flagrante et du coup des fois l'écart culturel est assez énorme. Donc concrètement, si on veut comprendre l'expression « guerre économique », on peut se référer au livre de Bernard Stiegler, qui est un philosophe français, économiste pour certains. Donc dans son livre « État de choc, bêtises et savoirs au XXe siècle », paru aux éditions « Mille et une nuits » en février 2012. Alors l'auteur nous renvoie dans le chapitre « La déraison » à l'œuvre et à la thèse de Naomi Klein, une journaliste canadienne, auteure et militante altermondialiste, qui développe le concept de « stratégie du choc » ou « capitalisme du désastre ». J'avais assisté d'ailleurs au Mirail à une conférence donnée par Geneviève Azam, que vous devez connaître.
C'est notre prof.
Ouais, ben voilà, qui justement avait écrit un bouquin un peu dans cette veine-là, je ne sais plus comment il s'appelait, mais il y avait le mot choc dedans, et donc elle revenait aussi sur ce concept de stratégie du choc.
Je vois pas c'est quoi le bouquin, mais
il y a quelques années.
C'était
à la librairie il y a peut-être 2-3 ans, tu vois.
C'est en rapport avec l'écologie, un truc comme ça?
Ouais, je pense.
Parce qu'elle est très axée sur l'écologie, l'économie, tout ça.
Non, là
c'est
Geneviève Azam, une prof de la fac du Mirail. Donc cette doctrine du capitalisme néolibéral est né aux États-Unis au sein de l'école de Chicago et dont le grand prêtre n'est autre que le connu maintenant Milton Friedman. Alors l'ouragan Katrina, le 11 septembre ou encore la crise de 2008 sont autant de moments de crise propices à l'expansion du secteur privé là où l'État semble avoir échoué. Je vais vous lire quelques petits passages donc de cet ouvrage. Donc, état de choc, bêtises et savoirs au XXe siècle. Là, il est frontalement question de l'ouragan Katrina. Voilà, ce qui est dit est la chose suivante. L'administration de George Bush versa des dizaines de millions de dollars destinés à convertir les écoles de la Nouvelle-Orléans en écoles à charte, c'est-à-dire en établissements subventionnés par l'État, mais administrés par des entités privées n'obéissant qu'à leurs propres règles. 19 mois après les inondations, alors que la plupart des pauvres de la ville étaient encore en exil, presque toutes les écoles publiques de la Nouvelle-Orléans avaient été remplacées par des écoles à charte exploitées par le secteur privé. Selon le New York Times, la Nouvelle-Orléans serait à présent le principal laboratoire des écoles à charte. Voilà. Donc, Naomi Klein cite ce commentaire de l'American Enterprise Institute et elle dit la chose suivante. Donc, Katrina a accompli en un jour ce que les réformateurs du système d'éducation ont été impuissants à faire malgré des années de travail. Autre chose, un peu plus loin. Alors, donc le capitalisme du désastre, c'est un type d'opération qui consiste à lancer des raids systématiques contre la sphère publique au lendemain de cataclysmes et à traiter ces derniers comme des occasions d'engranger des profits. Autre chose, donc là c'est directement, on parle directement de Friedman et de ses disciples, leur stratégie, attendre une crise de grande envergure, puis, pendant que les citoyens sont encore sous le choc, vendre l'État, morceau par morceau, à des intérêts privés. Voilà, telle est donc désormais la méthode privilégiée pour aider l'entreprise privée à réaliser ses objectifs, profiter des traumatismes collectifs pour opérer de grandes réformes économiques et sociales. Voilà, donc je ne sais pas si on peut considérer que la crise de 2008 est un traumatisme collectif. Il me semble que ça l'est quand même, parce que depuis ce moment-là, on se rend compte qu'il y a de l'austérité, qu'il y a tout un tas de choses qui remettent en question nos modes de vie.
Et encore en France, on s'en est bien sorti par rapport à certains
d'autres pays.
L'Angleterre, ouais. Les États-Unis.
Et donc, pourquoi pas percevoir donc cette crise comme ce moment de crise propice. Et donc, justement, le TAFTA venant, quelque part, répondre à ce moment de crise parce qu'il serait vecteur de croissance et donc vecteur d'emploi et donc vecteur d'une continuité du modèle consumériste dans lequel on est depuis quelques temps et qui semble nous aller si bien. Voilà, donc la guerre économique est bien réelle et elle s'appuie sur le principe de la concurrence. Les entreprises et les multinationales n'ont d'autre choix que celui donc de suivre l'accord du plus fort. C'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage qui nous a permis de préparer l'émission et dont Daniel nous a concocté un savoureux résumé. Je peux vous le dire, vous en dégusterez la saveur tout à l'heure.
C'est bien d'avoir confiance.
Voilà. C'est un bouquin donc vraiment très intéressant qui est de Thomas Porcher et de Frédéric Farah, paru aux éditions Max Milo en 2014. Et il est assez, je trouve que c'est bien vulgarisé parce qu'on s'est penché sur un autre dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le grand marché transatlantique ou la menace sur les peuples d'Europe, où là c'est quand même beaucoup plus hermétique. C'est la description de chaque chapitre du mandat de négociation, c'est un peu plus laborieux. Quoi, hein.
Bah, c'était la traduction de l'original, traduction...
L'explication juridique, on prend les traités, puis on explique ce que ça veut dire, parce que le citoyen lambda ne comprend pas.
C'est vraiment épouvantable.
Juridiquement, ça ne veut rien dire. Quoi. Ouais. Donc, ouais. Il a bien expliqué, en tout cas dans ce bouquin,
tout à fait.
Traité, article par article. Vraiment, en plus, c'est juste une petite partie quoi, qui a été... qui a fuité, et donc que certaines personnes traduisent des pages et des pages, parce que c'est écrit en anglais, évidemment. Ils traduisent ça parce que ça a fuité, mais sinon c'est totalement opaque, on a aucune information, hein. En tout cas des pouvoirs publics. Quoi.
Et puis en plus, ce n'est qu'en anglais aussi.
Ce n'est qu'en anglais, c'est la langue européenne, il faut bien le rappeler.
Ouais.
il y a énormément de langues, il faut bien unir
tout à fait,
unir
les différents
tout ça, quoi.
Peuples, ouais, c'est sûr. Donc cette histoire de guerre économique, il me semble qu'un autre exemple l'illustre assez facilement. Il est question ici de la dictature néolibérale. Alors c'est pas ce que je dis moi, c'est extrait donc du livre Le marché transatlantique, la menace sur les peuples d'Europe. Et c'est à la page 55, je vais vous lire ce qui est écrit. Nous faisons face à un conflit frontal entre des entreprises transnationales et les États. Ceux-ci sont court-circuités dans leurs décisions fondamentales, politiques, économiques et militaires par des organisations globales qui ne dépendent d'aucun État et dont les activités ne sont contrôlées par aucun parlement ni aucune institution représentative de l'intérêt collectif. Ces mots sont de Salvador Allende à l'Assemblée générale de l'ONU en 1972. Donc il a fallu 30 ans de dictature des marchés imposée par la dictature des militaires appuyée par Washington pour que le Chili et d'autres pays d'Amérique latine se libèrent de ce double joug et s'émancipent de la tutelle US. Écoutons la voix d'Allende et épargnons-nous donc 30 ans de dictature néolibérale.
Et rappelons que Allende a justement été renversé par le gouvernement américain. Ça a été prouvé, les documents sont déclassifiés. La CIA déclassifie régulièrement des documents. Donc cet homme-là qui a fait cette déclaration à l'ONU en 73, je crois, ça.
Ouais, 72.
72, ouais. Voilà, il était renversé et remplacé par...
Augusto.
Augusto.
Pinochet. Mais oui, mais c'est ce qu'on a. Je crois qu'on en avait rapidement parlé dans une émission précédente, cette histoire de l'école de Chicago, de ce qu'on a appelé les Chicago Boys. Hein, qui, bon, alors, j'ai pas étudié le dossier de très précisément, mais voilà, je pense des manipulations politiques, économiques qui ont permis donc d'élargir le marché américain, en tout cas états-unien, au continent sud-américain. Voilà.
Surtout que c'est vraiment toujours dans des logiques économiques. C'est parce que certaines entreprises publiques voilà, sont gérées par l'État, le pétrole, certaines entreprises alimentaires, et du coup ça va contre certains intérêts de grands groupes américains.
Tout à fait.
Et on voit vraiment voilà, une convergence en tout cas entre État public américain et secteur privé, parce que ils marchent main dans la main pour pouvoir faire avancer leurs intérêts communs. Quoi,
c'est simplement. Ça qui est très puissant, il me semble, et aussi c'est aux États-Unis, en fait.
Exactement.
C'est la coalition entre le secteur privé et le secteur public.
Ils sont totalement main dans la main. Et on voit aussi, avec la logique de la réserve fédérale américaine,
ouais.
Ils marchent main dans la main parce que les banques centrales sont censées être indépendantes de l'État. Mais en tout cas, ils savent qu'ils appartiennent au même pays et ils essaient d'avancer main dans la main. Ils savent qu'il y a un intérêt supérieur de la nation qu'ils prennent bien en compte et peut-être que nous, on n'arrive pas bien à concevoir, en tout cas en France,
ouais,
je pense.
Ouais, ouais. Même cette idée de nation, là, donc, c'est assez particulier parce que finalement, on a l'impression, donc on dit que le secteur public et privé marche main dans la main, mais c'est pas pour autant bénéfique à la population elle-même.
Voilà, ça n'a rien à voir.
Voilà, c'est donc ça en fait qui est particulier.
C'est les élites du pouvoir public qui marchent main dans la main avec les élites.
Voilà.
Et il y a souvent, voilà, ils changent de secteur régulièrement, quoi. C'est, on le voit aussi dans les institutions européennes,
tout à fait.
Au sein de même nos dirigeants politiques en France, voilà, ils passent du secteur public-privé comme s'ils changeaient de chemise, quoi, le matin.
Mais je crois qu'il y a un économiste aussi, alors lui il est indien, qui s'appelle Amartya Sen,
ouais,
qui avait démontré aussi que justement entre un, alors je sais pas si on dit un Bengali ou un Bengladi, en tout cas un habitant du Bangladesh, mm-hmm. et certains habitants de Brooklyn, eh bien un habitant du Bangladesh a une espérance de vie supérieure à un habitant de Brooklyn, alors que le Bangladesh fait partie précisément des pays pauvres, en tout cas jugés comme tels par les institutions internationales. Donc on voit là vraiment l'exemple typique de cette fracture qui est entre les élites politiques américaines et la population.
C'est clair.
Ouais. Pour parler de cette histoire de dictature néolibérale, ou en tout cas de cette guerre économique, on peut noter aussi la création en 1973 de la commission trilatérale. La commission trilatérale, qu'est-ce que c'est ? C'est une commission qui a été créée donc par un Rockefeller et qui rassemble des banquiers d'investissement et des dirigeants de multinationales en provenance du Canada, du Japon, d'Europe et des États-Unis, en vue de construire et d'établir un consensus nouveau, un système global que l'on qualifie alors de nouvel ordre mondial. Bon, attention, hein, on n'est pas du tout dans la théorie du complot, simplement là ce que je lis, c'est extrait d'un magnifique ouvrage que tu m'as prêté d'ailleurs, Franck, je te remercie. Et c'est un livre donc qui s'appelle « La route vers le nouveau désordre mondial », qui a été, pour la version française, édité à 2001, et, en septembre 2010, et qui est de Peter Dale Scott, qui est un universitaire canadien, enfin vraiment...
Ancien diplomate...
Ouais.
Il était, ben voilà, c'était un haut fonctionnaire. Il a travaillé au sein même des gouvernements et puis il raconte ce qui se passe un peu à l'intérieur des gouvernements avec une rigueur universitaire. Et puis il est salué par des commandants suprêmes de l'OTAN, des anciens. Enfin, tout ce qu'il racontait officiel, ça sort de grandes biographies de grands présidents, Eisenhower, Carter, etc.
Ouais.
Puis il fait un peu l'histoire des États-Unis profonde en fait. Vraiment les points essentiels dans leur politique extérieure notamment, politique étrangère, ce qui se passe.
Et ce qui est super, c'est cette idée de politique profonde. Je crois que c'est un concept, je ne sais pas si
c'est lui qui l'a inventé, d'état profond.
Voilà. Excuse-moi, vas-y.
En fait, l'état profond, ça veut dire qu'il y a un gouvernement, mais c'est loin, ils ne marchent vraiment pas tous main dans la main. Il y a des divergences d'intérêts profonds. Voilà, aux États-Unis, il y a un complexe saoudien néoconservateur qui ont une certaine politique étrangère vis-à-vis du contrôle des ressources, des matières premières. Voilà, il y a des intérêts vraiment qui divergent. Il y en a qui ont d'autres idéologies, il y en a qui sont plus nationalistes, qui en ont marre que les États-Unis s'ingèrent tout le temps dans les gouvernements étrangers. Enfin voilà, il n'y a pas consensus du tout. Puis il y a des États profonds qui arrivent à s'autofinancer de différentes manières. On peut parler des services secrets aussi notamment. Qui sont quasiment indépendants de l'État. Quoi. La CIA peut agir indépendamment de la décision d'un président, etc. Le président, des fois, ne peut même pas être au courant. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a découvert après des multiples enquêtes de ce qui s'est passé pendant la guerre froide. La CIA peut être totalement indépendante et ses actions enfin, ne peuvent même pas représenter l'État américain des fois.
Elles échappent donc complètement à l'État et, voilà, et donc exactement. Complètement aux citoyens eux-mêmes, puisque l'État est le résultat du vote. Et c'est un peu ce qu'on avait souligné et montré avec nos émissions sur la France-Afrique. Je fais un bond un peu dans le temps et dans l'espace aussi, mais pas avec Jacques Faucard et toute cette bande de crabes, un peu, excusez-moi un petit peu, mais qui justement, eh ben, c'est un peu un gouvernement de l'ombre qui prennent tout un tas de décisions dans les coulisses de l'Élysée.
Il faut un État dans l'État.
Et qu'il faut un État dans l'État.
Un État dans l'État, ouais, mais c'est présent un peu partout.
C'est tout à fait.
Il faut bien comprendre voilà, que voilà, y a vraiment des c'est pas un consensus généralisé. C'est très important, je pense, parce qu'on a tendance à penser, en tout cas, qu'il y a vraiment un énorme consensus, un énorme complot, etc. Or, il y a des intérêts qu'il faut faire avancer petit à petit, et il y a des gens qui y travaillent tous les jours.
Tout à fait.
Et très calmement, très sereinement. Et puis, il y a des intérêts qui vont dominer, qui vont gagner, etc. Donc, il faut voir comment ça va se passer, quoi.
Voilà donc pour la commission trilatérale. J'essaierai de me pencher un peu plus sur le dossier parce que c'est vraiment très intéressant.
Ah, ça, si tu fais un sujet sur ça, il y a de quoi dire.
Mais après,
c'est un peu partout.
Il ne faut pas qu'il y ait la CIA à la sortie de l'émission.
Non.
De la radio. Là, on est mort, hein, Daniel. Bon, trêve de plaisanterie. Ensuite, dans les années 80, il y a aussi ce qu'on appelle l'internationalisation bancaire, excusez-moi. Et ça aussi, je pense que c'est assez intéressant. C'est pareil, ça, c'était dans le chapitre 1 du bouquin dont on vient de parler. Alors, tu me rattrapes si je me trompe, mais d'après ce que j'ai compris, en gros, la convertibilité du dollar en or est supprimée et ceci contraint les banques mondiales à financer le déficit US. Parce qu'au lieu d'échanger leurs dollars contre de l'or, ils ne peuvent plus le faire que contre des bons du trésor américain.
Ouais, donc ça s'est passé en 73, c'est Nixon qui avait mis ça en place, je crois.
Ouais.
Et donc ouais, c'est bien ça, donc t'as bien résumé, sauf ça s'est passé en 73 et en 80, c'est bien ça, c'est le tournant de la rigueur et tournant néolibéral.
Voilà.
Parce qu'en fait, il y a le modèle, tout le modèle fordiste en fait qui s'écroule. Et le modèle aussi keynésien.
Dont on
parlait tout à l'heure, qui s'écroule un peu, et donc du coup, il faut trouver de nouvelles solutions, qui est plutôt des ouvertures d'économie totale, ouverture, un pays ouvert au monde, dans ses importations, exportations, fluctuations économiques, etc. Et voilà, c'est le point central. En tout cas, c'est Margaret Thatcher,
et
Ronald Reagan, et François Mitterrand, qui a fait ça aussi. Voilà, il a un peu ouvert l'économie, la création de la Banque universelle. Faut le rappeler aussi quand même.
Oui, bien sûr. Ça vient pas que de outre-Atlantique.
Tournant de la rigueur aussi. Donc, il était un peu à l'origine de ça. Enfin, aussi, il y a des situations qu'il était obligé de faire ça aussi pour régler certains problèmes, etc.
Bien sûr. C'est aussi, tu me dis si je me trompe aussi, il me semblait que c'était le moment où les États ont commencé à emprunter au secteur privé, enfin en tout cas aux banques privées, plutôt qu'à leur propre banque nationale. En fait.
Bon, en tout cas, en France, il y a la loi de 3 janvier 73, justement quand De Gaulle démissionne. Pompidou-Giscard, qui est Premier ministre, je crois, ou Président, je ne sais plus. Bon, en tout cas, il y a la loi Pompidou-Giscard. Qui dit que justement il faut arrêter de se financer à travers la Banque Centrale de France qui est indépendante et de se financer l'État, le secteur public sur les marchés privés en fait. Donc en fait tout le monde peut financer l'État. N'importe quel investisseur peut commencer à financer l'État.
D'accord.
Et c'est vraiment une rupture, on peut le dire je pense. Et c'est arrivé parce qu'aussi c'était la fin des Trente Glorieuses, le modèle s'est soufflé vraiment, donc il fallait tout un tas de changements.
Ouais.
Et là c'est vraiment le courant néolibéral qui a su s'imposer, qui a trouvé les brèches et puis qui a imposé son modèle à travers le monde en général, en tout cas le monde occidental.
Oui, d'accord. Voilà donc pour cette histoire de guerre économique, je crois que, il me semble que moi le terme de guerre est approprié en tout cas.
Le terme de guerre est tout à fait approprié et on a tendance à l'oublier, mais c'est vraiment, en tout cas aujourd'hui c'est vraiment une guerre économique.
Tout à fait.
Tout à fait.
Ouais. Voilà, je pense qu'on va de nouveau faire une petite pause musicale. Cette fois-ci, on va écouter un petit peu de James Brown, ça fait du bien aussi. La chanson s'appelle...
On aime bien aussi les États-Unis quand même.
Ouais,
On le disait tout à l'heure, on est tous fans en fait. Hein. On adore les États-Unis. Mais bon, il y a d'un moment, il faut dire stop peut-être. Hein.
C'est ça. Bon, pour l'instant, James Brown, libère-moi. À tout à l'heure.
1, 2, get down! See a bad mother.
pay the cost to be the boss. Bon, on continue en tout cas. Et tout de suite, je crois qu'on va parler un peu de l'Union européenne, Franck.
Ouais.
Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, de
Donc, la construction européenne. Bon, je vais parler de ce sujet parce que ça semble assez important.
Ouais.
Je vais commencer par une petite citation de François Mitterrand. Donc, c'est extrait du livre de Georges-Marc Benamou, Le dernier Mitterrand, sorti en 97. Donc, François Mitterrand confie aux Français, je cite, « La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs, les Américains, ils sont voraces. Ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant, une guerre à mort. » Fin de citation.
Super. C'est parfait pour introduire, je crois.
Donc c'est
ça
pas
confirme
mal,
un peu ce qu'on a dit jusqu'à maintenant.
Je pense que c'est pas mal. Bon, je vais parler de l'Union européenne parce qu'il y a des choses très importantes à dire sur une certaine domination économique qui vient très largement des États-Unis, en fait, tout simplement. Donc je vais essayer de le prouver, ça.
Ouais.
Donc tous les propos que je vais sortir, je les ai tirés des conférences que j'ai vues d'un certain François Asselineau. Donc c'est un petit homme politique qui fait des conférences dans toute la France et qui parle un peu de cette construction, cette domination américaine qui n'est pas forcément consciente mais qui est bien réelle. Donc il essaie de le prouver, puis je vais essayer de le prouver aussi. Donc déjà, tout ce qui arrive en termes de libéralisation, c'est le traité de Rome. C'est le 25 mars 1957.
Ouais.
Donc, on l'appelle couramment le traité de Rome. Donc, ça a constitué l'acte fondateur de la communauté économique européenne. Ça a institué le marché commun européen et a défini les bases de la politique agricole commune, par exemple, mise en œuvre en 62. Donc, ce traité, c'est un peu le point de départ de toute cette construction économique européenne. Mais c'est pensé depuis très longtemps dans des milieux intellectuels américains. Il y a une logique qui date de très longtemps, selon certaines sources, de fusionner vraiment les États-Unis, l'Amérique du Nord en gros, avec un grand bloc européen, sans la Russie évidemment. Sans la Russie. Donc là, je vais présenter quelques personnages. Donc on les appelle vulgairement les pères de l'Union européenne. Je vais en présenter des connus et des moins connus. Et c'est très intéressant, vous allez voir, je vais énoncer des faits. Hein. Donc tout est vérifiable.
Les pères de l'Union européenne, ça fait bizarrement penser aux... Père fondateur des
Père
États-Unis.
Père fondateur, exactement.
Le mot de père.
Tu vois, j'y avais jamais pensé. C'est très intéressant ce
que
tu dis.
Founding fathers.
Les pères fondateurs. Eh ben, on va voir qui c'est un peu.
Ouais.
Bon, je vais commencer par Walter Hallstein. Donc, c'est un juriste allemand et c'est un ancien nazi. Donc, Hitler l'avait envoyé en 1938 en Italie pour élaborer un projet pour une nouvelle Europe. Il faut savoir que déjà Adolf Hitler, il avait cette idée aussi de faire une Europe forte pour contrer. Les empires, ce qu'il appelait encore empires des autres continents.
D'accord.
Donc son idée centrale, quand il a envoyé ce juriste allemand en Italie, c'était qu'il fallait une Europe avec une instance supérieure qui déciderait au-dessus de toutes les nations européennes et qui, donc ces gens qui prendraient des décisions, il faut qu'ils n'aient de compte à rendre à personne. Donc ça nous fait un peu penser à la Commission européenne actuellement, qui sont des fonctionnaires surpayés, sous-imposés, qui prennent largement les décisions en fait et qui n'ont de rendre vraiment à personne. Donc ça fait vraiment passer à cette actuelle Commission européenne. D'ailleurs, Walter Hallstein, donc je rappelle ancien nazi, c'était le premier président de la Commission européenne en 1958.
C'est incroyable.
Donc il a été ouais, c'est vraiment une récupération totale. Donc c'est officiel, c'est vraiment un ancien nazi. Il a prêté allégeance totalement au parti, etc. Et puis il a travaillé honnêtement pendant le régime nazi. Ouais. Donc c'est un des pères de l'Union européenne et il est pour une Europe fédérale, évidemment, sur le modèle soit des Länders allemands actuels, donc les grandes régions allemandes, ou soit sur le modèle fédéral américain, tout simplement.
D'accord.
Personnage plus connu, Jean Monnet. Alors, Jean Monnet, très intéressant. Bon, il a vraiment une biographie exceptionnelle. Hein. Donc, je vais résumer tout ça. Donc, c'est un fonctionnaire international français. Il a vécu en Angleterre et aux USA. Donc, c'est un artisan, un des artisans de la Société des Nations, donc Société des Nations ex-ONU, ex-Organisation des Nations Unies, donc créée en 1919. C'est le fondateur de la Banque America et c'était aussi, pendant la guerre mondiale, un conseiller proche de Roosevelt, donc du président Roosevelt.
C'est intéressant ça.
Donc, c'est un agent d'influence au service alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Un des artisans de la planification française au moment de la reconstruction, après la Seconde Guerre mondiale, et un des principaux fondateurs de l'Union européenne. Donc ses valeurs, c'est promoteur du libre-échange, d'une disparition des États-nations au profit d'une Europe fédérale sur le modèle des États-Unis. Ça rappelle les déclarations de Rockefeller que tu as introduit au tout début de l'émission.
Ouais, ouais.
Et donc c'est un promoteur de l'atlantisme. Donc l'atlantisme, c'est un courant politique conceptualisé au début de la guerre froide, qui prône une alliance militaire centrée sur des États adjacents à l'océan Atlantique Nord et par extension donc entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc les États-Unis avec le Canada et peut-être le Mexique. Donc, en gros, cette idéologie de l'Atlantisme, c'est elle qui domine les grands courants dominants, on va dire, aux États-Unis et même en France. En France, il y a énormément d'atlantistes dans les hommes politiques. Donc ils ont cette conception des choses de vouloir peut-être contrer la puissance chinoise, la puissance russe, enfin en tout cas les puissances émergentes, en faisant une énorme alliance quoi, des blocs atlantiques et européens.
Ça se tient, hein, parce que je t'interromps, c'est ce qu'on verra tout à l'heure aussi, cette histoire du TAFTA, donc États-Unis-UE. Je crois que les États-Unis se sont rendus compte qu'ils n'allaient pas réussir à se mettre d'accord avec la Chine. Et donc, du coup, il y a un peu cette volonté de créer un bloc, justement, pour ne pas se faire trop devancer ou
dépasser
par la Chine. On y reviendra.
Ouais. Alors, donc, toujours sur Jean Monnet... dans son projet d'alliance atlantique, donc, atlantique européenne, ça doit s'accompagner d'une coopération dans les domaines politiques, économiques et culturels. Donc c'est pas juste une alliance, à la base, il y a l'OTAN, c'est vraiment l'alliance militaire commune pour pouvoir se défendre en cas d'agression. Donc ça va beaucoup plus loin. Ça va vraiment dans les domaines culturels, idéologiques, etc. Donc ce courant politique donne pour objectif à cette alliance d'assurer la sécurité des pays membres et de protéger les valeurs qui les unissent, la démocratie, les libertés individuelles et l'état de droit.
C'est beau.
C'est beau, c'est très beau. Non, mais sur le papier, c'est très beau.
Il faut
voir ce que ça donne dans la réalité. Donc voici un autre père de l'Union européenne. Un autre père de l'Union européenne, Schuman, Robert Schuman. Donc c'est un conservateur qui a eu un comportement assez trouble pendant l'occupation allemande. Donc il était 14 fois ministre, élu 14 fois ministre sous la 4e République française. Il a voté notamment les pleins pouvoirs à Pétain. Bon, c'est une anecdote, hein, comme ça.
Ouais.
À l'époque, et membre du premier gouvernement de Vichy. Il a été 14 fois des ministres des Affaires étrangères sous la 4e République et il a été aussi président du Parlement européen. Un autre père, Paul-Henri Spaak, qui est un homme d'État belge, président de l'Assemblée générale des Nations unies, président du Mouvement européen, président de l'Assemblée parlementaire, négociateur et signataire pour la Belgique du traité de Rome, dont j'ai vite fait parler au début, qui fonde le marché commun européen, qui vise à unifier donc tous les pays européens dans une logique économique, d'échange économique. Donc Paul-Henri Spaak a toujours soutenu qu'il avait servi d'intermédiaire. C'est lui-même qui le dit, intermédiaire, en faisant transiter des fonds vers des associations et des groupes de pression multiples qui avaient besoin pour pouvoir soutenir cette idée d'Union européenne, en fait, tout simplement.
D'accord.
Donc ça, ces gens-là, ils sont à la base de tout ce qui fait notre Union européenne d'aujourd'hui.
D'accord.
Bon, je parle un peu de toutes ces personnes parce que... Parce qu'en septembre 2000, il y a un article très intéressant qui est paru dans le Daily Telegraph. Donc le Daily Telegraph, c'est un journal très connu, un des plus grands journaux même du monde. C'est un journal conservateur britannique. Et en septembre 2000, il y a un journaliste d'investigation qui a décidé de prendre les informations qui venaient de sortir sur des documents déclassifiés de la CIA. Donc la CIA déclassifie régulièrement des documents, donc comme on l'a dit tout à l'heure. Et dans ces documents... Il y a des choses très intéressantes sur cette construction européenne. Donc, ils ont été déclassifiés. Ils montrent que les services secrets américains ont mené une campagne tout au long des années 50 et 60 afin de promouvoir l'unification européenne. Donc, les pères de l'UE, que j'ai présentés rapidement, Paul-Henri Spaak, Schuman et Monnet, et d'autres personnalités importantes dans les origines de la construction européenne, étaient employés par les services américains, la CIA. Tout ça, c'est vérifiable, et c'est la CIA qui a même émis ces documents. Et même, on peut se poser la question, pourquoi ? Il déclassifie ça. On peut se poser, est-ce que c'est pas un but aussi on ne peut pas savoir. Pourquoi ? Parce qu'il déclassifie pas n'importe quoi. C'est peut-être réfléchi. Peut-être que l'Union européenne veut vraiment contrer les États, peut vraiment contrer les États-Unis au point de vue économique. En tout cas, ils ont impulsé cette idée pour pouvoir faire une énorme unification après.
Ouais.
Et pour contrer l'idéologie communiste, surtout de la guerre froide.
Ouais, qu'il faut pas oublier.
Par exemple, les dirigeants du mouvement européen, donc Ritinger, Schuman et Spaak, étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains. Le rôle des États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète. L'argent du Comité européen pour l'Europe unie, donc fondé en 1948, c'est une association qui vise à contrer l'idéologie communiste en Europe. C'était le grand travail des Américains à l'époque. Il ne fallait pas que l'Europe tombe dans des régimes communistes, parce qu'ils étaient totalement hostiles à la domination capitaliste américaine, justement. Donc l'argent de ce Comité européen pour l'Europe unie, il voulait promouvoir l'idée d'une Europe fédérale. Et ça provenait aussi des fondations Ford et Rockefeller, du coup des fondations privées, ainsi que des milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain. Donc à la tête de ce comité européen pour, américain pour l'Europe unie, il y avait notamment William Joseph Donovan, créateur et dirigeant de l'Office of Strategic Services, donc l'OSS, l'ancêtre de la CIA, tout simplement. Donc le département d'État aussi a joué un rôle, ça fait partie de documents déclassifiés. Le département d'État américain, donc l'équivalent de notre ministère des Affaires étrangères, a joué clairement un rôle dans la construction européenne. Donc une petite citation.
Ouais, avec plaisir, on adore ça.
Donc une note émanant de Direction Europe. Donc c'est Direction Europe, c'est un petit ministère américain. C'est un ministère américain qui s'appelle Direction Europe.
D'accord.
Donc c'est très clair.
Ouais.
Donc c'est une citation qui date du 11 juin 1965.
Ouais.
Donc ce ministère conseille au vice-président de la Communauté économique européenne, Robert Marjolin, je cite, ouvrez les guillemets, de poursuivre de façon subreptice, c'est-à-dire camouflée, l'objectif d'une union monétaire européenne et d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. Donc ouais. C'est des citations très claires et ça émane directement des États-Unis.
D'accord.
Donc déjà, à la base de la construction européenne, construction d'échanges économiques, faciliter les échanges, etc. Mais l'idée même d'union monétaire, elle n'était pas du tout, on n'en parlait pas à l'époque.
Mmh.
Mais c'était déjà théorisé, pensé et promu déjà dans les milieux américains.
D'accord.
Donc tout ça, c'était un peu connu à l'époque, mais il y avait uniquement le Parti communiste dans les années 50, c'était uniquement le Parti communiste qui en parlait, et ainsi que De Gaulle.
Ouais.
Donc il disait déjà que l'Union européenne, c'est un peu grossier, mais que c'était clairement une création américaine. Qui a eu l'idée de la première constitution européenne, c'est très intéressant, c'est le général Dwight Eisenhower,
mmh.
Donc un général américain, qui était commandant suprême de l'OTAN et qui a été élu plus tard président des États-Unis. Lui-même dit, je cite, « Rien ne pourrait nous être plus agréable d'apprendre que les États d'Europe occidentale ont décidé de réunir dans une ville d'Europe des délégués responsables avec le mandat de rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe, de désigner la capitale, etc. et qu'à partir du 1er janvier, l'Europe occidentale fonctionnera comme une fédération. » Donc c'est une déclaration faite dans Paris Match le 27 octobre 1951. Ça date d'un moment déjà.
Ouais, ça fait un bon petit moment. Ça remonte à longtemps, hein, tout ça.
Donc,
c'est assez incroyable.
Donc voilà en gros un peu l'histoire cachée, on va dire, de l'Union européenne, des pères fondateurs dont on nous vend souvent une autre image
tout
dans les livres d'histoire, même quand on était au lycée. Voilà, on a une image totalement différente de Jean Monnet qui a passé sa vie en Angleterre et aux États-Unis. Et en fait, bon, c'est considéré comme français, père de l'Union européenne, etc.
Ouais, ouais.
On nous l'a bien vendu, quoi.
On nous disait que l'Europe s'organisait pour contrer l'influence américaine.
Exactement.
On nous a appris ça.
Toutes les campagnes politiques de l'époque, des années 50-60, disaient qu'il fallait s'unir. Ça paraissait tout à fait cohérent.
Bien sûr.
Qu'il fallait s'unir pour contrer l'émergence du Japon, notamment, qui commençait à émerger, et puis des autres pays. Il fallait créer une Union européenne pour contrer le Japon, les États-Unis et tous les autres pays. Il fallait créer ça avec nos pays voisins. Et ça paraissait vital.
Bien sûr.
Et au final, on se rend compte que c'est peut-être à nuancer.
Ouais. Après, bon, voilà, on ne doute absolument pas des bonnes intentions qu'avaient ces gens-là de l'époque. En tout cas, il faut voir qu'aujourd'hui, ça nous a mené là où ça nous a mené. Il y a eu du bon comme du mauvais. En tout cas, aujourd'hui, la question, c'est le TAFTA. Et donc, c'est peut-être la dernière pierre à cet édifice de création d'un bloc uni entre les États-Unis et l'Europe. Merci pour cet éclairage, hein, vraiment. Chapeau. Ouais.
Les recherches sont extraordinaires. Les trouvailles sont.
Ouais. Il faut bien comprendre. Ouais, voilà, c'est bien comprendre que ce que j'ai cité, ça vient vraiment. Ce sont des sources officielles.
Oui.
Faut bien comprendre que tout est absolument vérifiable sur Google. Allez sur Google, vérifiez juste les allégations. Il y a tout. Il y a vraiment tout.
Ouais,
donc il y a les salaires. Robert Schuman, Jean Monnet, on a leur salaire payé par la CIA. Voilà.
Ouais,
je pense que c'est le point vraiment important à retenir.
Sûr.
Et ça peut donner peut-être un petit déclic pour réfléchir à quoi peut-être. Enfin, en tout cas, c'est la base de la création de l'Union européenne. Après, il faut se poser peut-être la question aussi de pourquoi ils ont vraiment déclassifié ces trucs.
Mm-hmm.
Pourquoi ils ont déclassifié ces documents. Est-ce que c'est pas aujourd'hui que l'Union a pris un certain poids et que si on veut s'émanciper totalement des États-Unis, ce qui n'a pas l'air de se présager vu du TAFTA, malheureusement. Mais on se demandait, en tout cas, ça a été déclassifié en 2000, peut-être qu'ils pensaient à cette époque que ça allait peut-être devenir problématique s'il y a un rapprochement avec la Russie et qu'on se détache un peu des États-Unis, etc.
Peut-être.
Bon, on ne peut pas savoir pourquoi ils ont déclassifié ça. En tout cas, ça nous a été très utile. On peut Voilà, on a complété une partie de l'histoire en tout cas, tout à fait. On en saura plus encore dans 10 ans, ouais, c'est sûr.
Donc. Mais c'est vrai que du coup, dès qu'on fait quelques petites recherches, qu'on note, dès qu'il y a un nom qui ressort, dès qu'il y a un document, un truc, qu'ensuite on continue à rechercher, on se rend très vite compte que les choses ne sont pas finalement si cachées que ça, et que c'est pas la peine de verser dans la théorie du complot pour se rendre compte qu'il y a juste des conflits d'intérêts, des intérêts communs, qu'il y a des preuves à l'appui. Merci en tout cas du coup l'Union Européenne, création des États-Unis, en tout cas en bonne partie. Tout de suite on va donc parler du TAFTA. Moi j'avais juste envie de donner un nom, on va pas s'étaler sur son cas, mais je pense que c'est un nom assez important à retenir. Il s'agit de Zbigniew Brzezinski. On va juste épeler parce que sinon on s'en sort pas. Brzezinski, ça s'écrit Brzezinski. Voilà, bon, il a écrit un bouquin qui s'appelle Le Grand Échiquier, on n'en dit pas trop, mais lui c'est beaucoup plus de la géostratégie, géopolitique, donc politique étrangère des États-Unis.
Toute la politique étrangère américaine est basée sur ses travaux.
Ouais.
Et même, c'était le conseiller de multiples présidents, c'est encore le conseiller d'Obama, il faut le rappeler.
D'accord.
Aujourd'hui, c'est le conseiller d'Obama, Brzezinski.
Ok.
Donc, quand les États-Unis, via l'OTAN, hein, parce que c'est... On fait tous partie de l'OTAN, mais les parrains de l'OTAN, hein, c'est les États-Unis qui contrôlent l'OTAN. Nous sommes que subalternes. Et donc toute leur politique étrangère est basée sur les travaux, sur la réflexion en tout cas de Brzezinski.
Et donc le bouquin dont je parlais là à l'instant, Le Grand Échiquier, la primauté américaine et ses objectifs géostratégiques, qui a été écrit en 1997. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire quand même une citation.
Il est tout à fait actuel en plus en ce moment.
La citation c'est « Par conséquent, l'Amérique est non seulement la première et l'unique superpuissance mondiale, mais elle est également probablement la dernière. » Je voulais juste conclure là-dessus parce qu'il me semble que ça rejoint tout à fait cette idée de remplacement par les pouvoirs privés, du pouvoir public et donc des États dont parlait Rockefeller tout à l'heure. La boucle est bouclée, on en vient au TAFTA et pour introduire, bien, on se met une petite bande audio.
Par exemple, oui.
Voilà, une bande audio donc, à laquelle vous n'avez pas pu résister, je crois non plus, la dernière fois que vous avez fait votre conférence. C'est de Data Gueule.
C'est ça.
C'est ça. Et donc,
c'est de France Télévisions.
France Télévisions.
Donc c'est une petite présentation très sympathique, très courte, vulgarisée, très claire.
Très sympa.
Pour présenter un peu ce que c'est le TAFTA.
Ouais, dans ses grandes lignes. On se retrouve juste après ça, tout de suite.
Quand les sociétés deviennent des supermarchés, les lois deviennent des étiquettes. Bonjour. 800 millions de consommateurs pour un marché qui représente plus de 25% du produit intérieur brut mondial. Bienvenue dans la plus grande galerie marchande du globe, l'Europe. Mais avec ses normes, ses lois, ses barrières douanières, l'Europe reste un marché plutôt protégé. Et certains aimeraient bien le voir s'ouvrir totalement au monde. Permettre le libre-échange entre les États-Unis et l'Europe, voilà l'objectif du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, aussi appelé TAFTA. 119 milliards d'euros en plus dans l'économie européenne et plus de 100 milliards dans l'économie mondiale. Voilà les promesses affichées par les défenseurs de TAFTA. Les exportations de l'Europe grimperaient de 6% et celles des États-Unis de 8%, tout bénef. Mais comment un tel miracle est-il possible? Difficile de le savoir. Les négociations étant en cours, les documents relatifs à TAFTA ne sont consultables que dans quelques salles sécurisées où tout emprunt et prise de notes sont formellement interdits. Chut, ils négocient. Dès novembre 2011, un premier groupe de travail réunit les représentants des États et des entreprises américains et européens. Regardons plus précisément qui vient conseiller ces négociateurs. Pour plus de 90%, il s'agit d'entreprises, donc du secteur privé, contre moins de 6% pour les représentants de la société civile, ONG, associations de consommateurs ou syndicats. Rôle de balance. L'harmonisation des normes commerciales. Voilà l'un des enjeux majeurs de TAFTA. Dans le concret, cela veut dire aligner les règles. Pour les voitures, si les normes nationales imposent deux tailles de pare-chocs différentes, il faudra en choisir une. Mais prenons l'agroalimentaire. OGM, bœuf aux hormones, poulet au chlore. Les règles sont bien différentes des deux côtés de l'Atlantique. Là aussi, TAFTA harmonisera tout cela avec un objectif clair, favoriser le commerce. Du coup, CropLife, une fédération internationale de vendeurs de graines, mais aussi de pesticides, affiche clairement ses besoins. En menaçant 40% de ses ventes potentielles, la régulation européenne sur les pesticides n'est pas acceptable. TAFTA devra permettre de l'annuler. Car non seulement le traité prévoit l'ouverture totale du marché européen, mais mieux, TAFTA inclut un outil pour s'en assurer, les tribunaux arbitraux. Une justice à sens unique où n'importe quelle entreprise peut attaquer un État et jamais l'inverse. Ce sont ensuite des arbitres qui tranchent le contentieux. Et ces tribunaux arbitraux sont déjà en place ailleurs. Philip Morris a ainsi déjà attaqué l'Uruguay et l'Australie pour des campagnes anti-tabac qu'il considère discriminatoires. Les deux pays risquent des amendes de plusieurs milliards de dollars. Idem pour Lone Pine Resources, un gazier américain qui réclame plus de 220 millions de dollars au Canada. Pourquoi ? Parce que le Québec a signé un moratoire interdisant, au nom de la protection de l'environnement, l'exploitation des gaz de schiste dans sa province. Et devinez qui siège dans ces tribunaux arbitraux ? Les arbitres. Neutre, bien sûr, ou pas. On y trouve aussi des avocats d'affaires habitués des intérêts industriels et même des lobbyistes, comme Daniel Price, ancien conseiller de l'ex-président George Bush et grand défenseur de Monsanto. Derrière l'ouverture d'un vaste marché transatlantique, TAFTA opère une bascule fondamentale. Le contrat commercial l'emporte sur le contrat social et les tribunaux arbitraux sur les lois nationales. Mais après tout, dans une galerie commerciale, ce qui compte le plus, c'est le business, non ?
Voilà. Merci, merci à nos invités. Merci Franck pour ces lumières assez effrayantes, mais dont nous avons tous besoin. Merci, merci beaucoup.
Et promis, on ne devient pas fou. On dit nos invités, on parle de Franck, mais il y en a quand même une autre qui est toujours là. Tu es toujours là.
C'est Nathalie.
Merci Nathalie. Merci beaucoup.